Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio TerraZen. Vous écoutez l'émission Histoire du soir, la sixième. Bonsoir. Vous êtes donc avec Olivier Buirette, c'est moi qui vous parle. Et donc ce soir, pendant à peu près une heure, nous allons parler en ce 31 mars 2016. Eh bien, nous allons revenir sur le naufrage du Titanic qui s'est produit le 10 avril, qui s'est produit entre le 10 et le 15 avril 1912. Le navire a sombré le 15 avril, précisément 1912. On aura l'occasion d'y revenir. Et donc, cela fait maintenant à peu près 104 ans, dans quelques jours, que cet événement tragique a eu lieu. Ce naufrage du 15 avril 1912, qui est, je crois qu'on peut le dire, et ce sera intéressant d'ailleurs d'en reparler, eh bien, un naufrage, une catastrophe, peut-être une des premières catastrophes globales, quelque part, de l'histoire récente, parce que, tout simplement, ça va être un événement qui va être répercuté dans le monde entier, dans la presse, par le bouche à oreille, etc., et l'effroi qui va glacer l'opinion publique, les opinions publiques naissantes de l'époque de cette catastrophe, ne va cesser de croître jusqu'à devenir une légende, puisque bien sûr, on le sait, la redécouverte de l'épave du Titanic dans l'Atlantique Nord a été toute une aventure sur les 20 dernières années. Nous en reparlerons, l'épave sera localisée pour la première fois, ne l'oublions pas, en septembre 1985. Alors, à l'origine de tout cela, il y a ce superbe liner, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire ce superbe bateau de croisière dont l'objectif était de relier la vieille Europe aux Amériques, et plus précisément à l'Amérique du Nord, à New York, sur cette période de la fin du 19e, début du 20e siècle, avant la guerre de 14, période où, un marché, si je puis dire, considérable des personnes souhaitant quitter l'Europe pour se rendre dans l'Amérique du Nord, aux États-Unis, pour y refaire leur vie, y trouver du travail, eh bien, était un véritable enjeu et donc une dispute entre la White Star Line, la compagnie britannique, celle qui donc sera celle qui va affréter le Titanic, et notamment la Cunard, cette compagnie rivale américaine dont on va parler par la suite. Alors, tout cela commence en 1907, puisque nous allons être sur quelque chose d'assez linéaire ce soir, 1907 avec donc le début du projet, de l'initiative de construire ce paquebot que l'on va souhaiter avoir deux caractéristiques pour commencer. La première, ce sera d'être immense, avec une capacité de stockage très très importante, notamment pour transporter le plus vite possible autant de monde de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis deuxièmement, cet aspect très particulier de vouloir construire un navire qui soit insubmersible, c'est-à-dire avec une sécurité totale. Alors, l'homme à l'initiative de tout cela, ça va être le président de la White Star Line de l'époque, qui s'appelle Joseph Bruce Ismay, Ismay, qui va être à l'origine du projet. Ismay, on en reparlera, parce qu'il se trouve que, bien sûr, il sera du fameux voyage inaugural du Titanic, ce qui, bien sûr, nous intéressera tout à l'heure. Alors, le navire, toujours à propos introductif, va être construit en Irlande du Nord, qui à l'époque fait plus que jamais partie, si je puis dire, de la couronne britannique en Irlande, puisque vous savez que le Royaume-Uni, avant la guerre de 14, comporte l'intégralité. Non seulement de l'Écosse, de la Cornouaille, mais bien sûr aussi de toute l'Irlande, ça forme donc ce fameux Royaume-Uni, et donc dans la grande capitale du Nord, à Belfast, dans les fameux chantiers navals de Belfast, entre 1909 et 1912, eh bien le Titanic va être donc construit progressivement. On va le doter, au passage, à cause de l'aspect insubmersible, de 16 compartiments étanches. On y reviendra en détail tout à l'heure, pour les caractéristiques techniques. 16 compartiments étanches qui vont former la coque, une coque que l'on voudra complètement indestructible, en cas de choc, évidemment, avec cette route de l'Atlantique Nord, avec les icebergs. Alors, le Titanic donc va couler, on l'a dit tout à l'heure, le 15 avril 1912 à 2h20 du matin. 1520 personnes vont périr sur les 2213 membres d'équipage et passagers. Les chiffres sont importants ce soir, on aura l'occasion d'en reparler. Ce qui nous fait à peu près 693 rescapés seulement sur 2213 personnes, c'est un chiffre qui à lui seul, ne serait-ce que pour l'époque, est déjà traumatisant. L'épave, qui va couler par plus de presque 4000 mètres de fond, fait que, évidemment, il va falloir attendre les progressions des technologies d'investigation sous-marine pour que, comme je disais tout à l'heure, le 1er septembre 1985, le professeur Robert Ballard, l'Américain, va localiser l'épave à peu près à 650 km de Terre-Neuve, par 3843 mètres de fond. C'est une profondeur tout à fait considérable. Aucun être humain en combinaison de plongée ne peut atteindre une telle profondeur. On ne peut s'y déplacer qu'avec des robots ou des cloches de plongée. On en reparlera. Et c'est ce qui fait que ce navire, tout simplement, a été localisé si tard. Parce qu'effectivement, à partir du moment où il sombre, dont on en reparlera tout à l'heure, évidemment, on va avoir du mal à retrouver son épave. Alors, le Titanic aussi, bon, on y reviendra, c'est bien sûr le fameux grand film de James Cameron, de 1997, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, vous vous en souvenez sûrement, qui s'appelle Titanic et qui raconte une histoire d'amour à bord de ce bateau. C'est un magnifique film, tant par la reconstitution historique, l'atmosphère de l'époque, des trois classes, de la première, de la seconde et de la troisième classe du bateau, et également par la très belle histoire qui est racontée, une histoire tellement bien racontée qu'elle nous fait oublier, quand on voit le début du film, pendant la première heure en tout cas, qu'il va y avoir un naufrage. C'est quand même un véritable chef-d'œuvre avec des travel back, des flashbacks, avec bien sûr l'épave retrouvée au milieu des années 80, on y reviendra. Une expo aussi très intéressante sur le centenaire du naufrage. Je mettrai peut-être en ligne d'ailleurs sur la page Facebook donc sur laquelle nous interagissons ensemble, qui s'est tenue à partir de 2012, hein, sur le centenaire, hein, du naufrage. C'est encore quelque chose d'intéressant à mentionner. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, hein, tout simplement, on va rappeler, hein, que vous pouvez, hein, bien sûr, poser vos questions en direct sur le site. Hein, j'ai indiqué tous les détails tout à l'heure sur le site de la web radio TerraZen. Hein, vous pouvez y poser vos questions. Vous pouvez aussi interagir en posant des questions sur la page Facebook. Vous savez qu'il sera répondu un peu plus tard, puisque je ne peux interagir aux réponses de questions que sur le site de la web radio. Alors, en premier lieu, on va bien sûr se concentrer, hein, sur. Bien sûr, sur la construction, hein, et le contexte de la construction, hein, du Titanic. Alors, bien sûr, je le disais précédemment, pardon, eh bien, nous sommes, avant toute chose, dans un contexte de rivalité, hein, avec ce que l'on peut appeler pour l'époque le fameux marché des transatlantiques. Ce marché des transatlantiques, eh bien, il concerne effectivement une population de migrants, hein, c'est bien le cas de le dire, même pour l'époque, de populations qui souhaitent, hein, quitter une Europe en crise, et notamment une Europe du Sud, hein, pour se rendre aux États-Unis à l'époque. Les deux grandes compagnies rivales vont être la Cunard, hein, compagnie américaine, qui existe toujours. Hein, la Cunard, c'est la compagnie qui affrète toujours les fameux bateaux de croisière luxueux, les Queen Mary 1 et 2, hein, par exemple. La Cunard, donc, qui a été fondée par un fameux monsieur Cunard, hein, en 1840. Hein. Et puis, la White Star Line, hein, qui va être la compagnie britannique, hein, la compagnie donc fondée elle en 1845, hein, et qui disparaîtra, mourra de sa belle mort, pour nous dire, en 1934, date à laquelle elle va fusionner, hein, avec la Cunard. Alors, on est dans une période de grande rivalité des grands navires. Du côté Cunard, ça va être le Lusitania, le Mauritania, par exemple, ce sont des navires célèbres dont on parle pas mal dans la littérature de l'époque. Et côté White Star Line, eh bien, ce sont des navires comme le Titanic, dont on va évidemment beaucoup parler ce soir, mais aussi l'Olympique ou le Gigantique. Hein. On est dans une terminologie comme ça, en hic, de faire des navires d'une taille tout à fait considérable, des géants des mers, hein, pourrions-nous dire pour l'époque. Hein. L'architecte que a retenu l'histoire pour le Titanic, c'est Thomas Andrews. Thomas Andrews, donc, qui va devenir l'architecte, en fait, qui va finaliser la construction du navire à partir de 1910. Et on le sait également, il y a eu au moment de la construction du navire, et c'est important parce que ça va ressortir après dans les débats des commissions d'enquête, hein, il y a eu notamment une polémique sur le nombre de canots de sauvetage. Là, il est très clair que Ismay, le président de la White Star Line, jugera inutile, hein, d'avoir autant de canots que de passagers, puisque le navire, hein, sera considéré comme insubmersible. Hein. Donc ça, c'est effectivement un des premiers grands problèmes, hein, de ce navire, hein, et de cette histoire. Dans toute cette histoire, on a incontestablement un nombre important de responsables, hein, de décideurs qui ont une confiance aveugle, hein, dans la technique de l'époque, hein, et le côté insubmersible du navire. Alors, en premier lieu, on va construire la coque, hein, de 1908 à 1909. Cette coque qui va comporter 3 millions de rivets, hein, 2000 tôles de 4 cm d'épaisseur, hein, quand même. On construit les fameux compartiments qui sont censés, les 16 compartiments, rendre le bateau insubmersible. Hein. Et le 31 mai 1911, hein, eh bien, le navire est mis à l'eau, hein, à Belfast, hein, au terme d'une grande cérémonie. 100 000 personnes pour l'époque sont réunies, une grande réception a lieu, hein, pour ce moment de fête. C'est vraiment le grand lancement, la grande opération, pour nous dire, de communication, hein, de la White Star Line, hein, qui donc va bientôt mettre en place ce navire, le Titanic. Alors ensuite, de 1911, juin 1911 à mars 1912, le navire va être aménagé. Aménagé, et on va vouloir y mettre les techniques et le luxe le plus magnifique de l'époque, de la première à la troisième classe. 3000 personnes vont travailler, hein, d'arrache-pied pendant ces quelques mois, hein, en dotant la première classe de mobilier somptueux, hein, dont on reparlera tout à l'heure, hein, et on annonce un voyage inaugural pour le 18 septembre 1911. Le voyage inaugural n'aura lieu que plus tard, à compter du 10 avril, parce que un certain nombre de problèmes de réglage technique, hein, du navire ont retardé, hein, tout simplement, ce fameux voyage inaugural. Alors, également, autre caractéristique technique, le navire va être doté de 3 immenses hélices de bronze, de 38 tonnes chacune, de 7,20 m de diamètre. C'est tout à fait considérable pour l'époque. Alors, on en arrive maintenant à l'inauguration, au prévoyage du bateau, hein, puisque bien sûr, à grand renfort de publicité de l'époque, on commence bien sûr à remplir, hein, les réservations, hein, de ce navire, dont le voyage inaugural va être, pour nous dire, un événement de l'époque. Hein. Sachez que l'idée, hein, pour le record de l'époque, il faut bien se dire que l'aviation n'est encore qu'à ses balbutiements, hein, au début des années 10, hein, du XXe siècle, et bien sûr, l'idée est de traverser en à peu près une semaine, voire moins, hein, l'Atlantique, hein, ce qui est considéré comme un record absolu pour l'époque. Alors, le prévoyage de test est effectué le 2 avril 1912, avec à son bord donc le capitaine Smith, hein, le fameux Smith, qui sera le capitaine, hein, du Titanic. Qui donc, si je puis dire, met les voiles, hein, ou en tout cas allume les chaudières pour se diriger de Belfast jusqu'à Southampton, hein, Southampton qui sera donc évidemment le port où le Titanic va s'amarrer en vue de démarrer son premier voyage inaugural. Il entre dans le port de Southampton, le Titanic, en ce mois, début du mois d'avril 1912, avec 6 remorqueurs. Hein, ça donne une idée de la taille, hein, du navire. Hein. Les derniers travaux de peinture achevés, le coût total, hein, de la réalisation de ce géant, hein, sera de 150 millions de dollars. Donc ce qui représente à peu près bon an mal an pour nous 137 à 140 millions d'euros actuels. Ça vous donne une échelle de grandeur, hein, donc de la réalisation du coût, hein, de ce navire. Alors, nous en arrivons à présent à la traversée inaugurale, au départ de Southampton, le 10 avril 1912, qui est admirablement reconstitué d'ailleurs dans le film de Cameron. Hein. Je vous invite à revoir ces scènes d'appareillage, hein, du Titanic, où il est tellement grand que le fait de bouger un peu dans le port ébranle complètement tous les navires tout autour. Hein. 10 avril 1912, à 12h15, hein, il part avec déjà 953 personnes à bord, hein, qui embarquent depuis Southampton, et 889 membres d'équipage. Il arrive à Cherbourg le même jour en France à 18h35. Alors je vous recommande, celles et ceux qui ont l'occasion de se promener en Normandie et de pousser jusqu'au nord, à la pointe nord de la Normandie et d'aller jusqu'à Cherbourg, eh bien, si vous allez sur le port de Cherbourg, vous verrez le terminal des grands transatlantiques existe toujours. Hein, et vous pouvez imaginer que le Titanic, eh bien, a mouillé au large parce qu'il ne pouvait pas, il était tellement gros qu'il ne pouvait pas rentrer dans le port de Cherbourg. Mais vous pouvez imaginer donc l'atmosphère de l'époque. Le grand hall des embarquements de transatlantique à Cherbourg a été conservé. Tout ça est inclus dans le fameux musée de la mer. C'est très intéressant à voir. Alors, escale à Cherbourg le 10 avril à partir de 18h35 et le soir même, hein, dès 20h10, eh bien, le Titanic repart vers l'Irlande pour sa dernière, si je puis dire, étape avant, évidemment, le grand large et l'océan Atlantique Nord. Il arrive à Queenstown le lendemain, donc en Irlande, à 11h30 du matin, et il va donc repartir de Queenstown, cette fois-ci définitivement avec le nombre de passagers définitifs. Il va repartir donc à 13h30, le 11 avril 1912, avec, si je puis dire, le nombre définitif de personnes qui, pour le meilleur et pour le pire, vont être enfermées à bord. 1324 passagers, les trois classes comprises, et toujours les 889 membres d'équipage. À ce titre, on mentionnera que le capitaine Smith, qui effectivement était au bord de la retraite, devait, ce n'était pas son dernier voyage, hein, c'est ce que disent la plupart des auteurs spécialistes de cette affaire du Titanic, hein, il devait en effet prendre un ultime commandement après, en 1914, à des funestes, mais on ne le savait pas à l'époque, bien sûr, à bord du Gigantique. Hein, bon, évidemment, comme on le sait, ça ne se fera pas. Et puis voilà, donc notre navire en ce début d'après-midi hein, du 11 avril 1912 qui part un temps superbe, prend le large, les falaises de l'Irlande s'éloignent au loin et il part cette fois-ci face à la mer hein, et tout de suite évidemment on commence à allumer les différentes chaudières. La vitesse maximum hein, du navire sera d'à peu près 40 km à l'heure hein. Alors ça peut faire sourire aujourd'hui mais sachez que c'était une vitesse tout à fait considérable. Alors rapidement hein, même si la route suivi par le Titanic est une route classique des navires donc transatlantiques. Vous savez que là on parlait tout à l'heure de la rivalité entre la Cunard et la White Star Line. Hein, il y a toujours cette idée d'aller toujours plus vite parce que chaque année, vous le savez, il y a ce qu'on appelle le fameux ruban bleu, hein, qui est le trophée hein, remporté que courent les capitaines hein, pour si je puis dire, atteindre donc le plus vite possible les côtes nord-américaines. Alors rapidement, bah oui, les messages donc d'alerte, même pour cette route de l'Atlantique Nord qui est relativement au sud, se multiplient, car cette année-là, on annonce effectivement pas mal d'icebergs qui se sont détachés hein, de, évidemment de la calotte polaire nord hein, pour eh bien, dériver et c'est très dangereux évidemment pour tous les navires même si le Titanic comme je l'ai dit tout à l'heure se considère hein, comme totalement insubmersible. Alors ces messages se multiplient, il y a un petit incendie dans une chaudière, mais sans gravité, qui va être maîtrisé. Nous en arrivons alors au 14 avril 1912. Nous sommes alors, le navire a déjà parcouru 2687 kilomètres. Hein, et dès le matin de ce 14 avril 1912, hein, qui est le dernier jour, puisqu'on le sait, c'est dans la nuit du 14 au 15 hein, qu'a lieu évidemment le terrible naufrage, hein, eh bien les messages se multiplient. Ça n'empêche pas Bruce Ismay, de dire au capitaine d'allumer les dernières chaudières et de foncer afin d'arriver en avance, si possible, dans le port de New York. Hein, comme on le voit dans le film de Cameron, il dit « Make the newspapers, hein, make the title of the newspapers hein, », c'est-à-dire donc de faire la une des journaux. Hélas, on le sait, c'est pas parce qu'il sera arrivé en avance que le Titanic va faire la une des journaux le lendemain. Make the morning newspapers, voilà, c'est ça, le terme exact. Et effectivement, on indique aux deux officiers, notamment responsable du pont, William Murdoch, hein, et également l'autre donc qui s'appelle Lightoller, hein, je précise, et bien de surveiller ou de faire surveiller particulièrement donc le risque de percuter donc à l'iceberg. Mais malheureusement. Malheureusement, on a tellement confiance dans cet aspect submersible que les vigies n'auront même pas de jumelles. Donc c'est au regard, hein, simplement qu'il va falloir apercevoir cette éventuelle masse blanche, ce qui a lieu à 23h40, hein, le 14 avril 1912. Un iceberg absolument gigantesque est détecté. Et William Murdoch, donc, qui est en charge à ce moment-là, fait virer de bord le navire, et par une manœuvre, alors seconde erreur, hein, si on peut dire, la vitesse, hein, on en reparlera tout à l'heure, la deuxième erreur, bah, un certain nombre de ces commissions d'enquête dont on parlera tout à l'heure le disent, hein, ça va être la manœuvre que va avoir décidé le premier officier William Murdoch. C'est-à-dire, d'une part, de faire machine arrière, hein, pour éviter un choc frontal, et deuxièmement, de combiner ces machines arrière avec un viré de bord, hein, afin évidemment, encore une fois, eh bien, de ne pas rentrer, si je puis dire, de front dans l'iceberg. Et c'est là l'erreur. Hein. Parce que, bien des experts le disent, si le navire avait eu un choc frontal avec simplement des machines arrière, il serait sans doute resté à flot. Hein. La manœuvre de virer de bord va faire qu'en fait, la coque, hein, va racler, hein, l'iceberg, hein, et que bien c'est là que, évidemment, les fameux 16 compartiments, hein, vont être éventrés, hein, sur à peu près 14 d'entre eux, hein, ce qui va faire évidemment que, bien sûr, eh bien, le navire ne pourra pas se maintenir à flot. Alors, les machines sont arrêtées, et, personne ne s'inquiète vraiment de ce choc qui, malgré tout, semble peu important. Hein. Mais rapidement, et c'est mathématique, l'eau va envahir les compartiments les uns après les autres. Les pompes ne serviront à rien. Il y a trop de compartiments inondés. Hein. Et à 0h15, hein, donc le 15 avril, 1912, eh bien, à 0h15, le capitaine Smith décide l'évacuation des passagers, puisque l'ingénieur en chef, qui est aussi du voyage inaugural, hein, eh bien, a indiqué, hein, que en 1 heure, 2 heures tout au plus, hein, le navire, eh bien, sera au fond de l'Atlantique, par près de 4000 mètres de fond. Alors, deux messages sont envoyés, un dans le codage de l'époque, qu'on appelle un CQD, ce qui veut dire Come Quickly Distress, qui n'existe plus aujourd'hui, et le second, bah, c'est le fameux SOS, Save Our Soul. L'histoire a retenu que c'était peut-être la première fois qu'un message de type SOS était envoyé dans l'histoire avec cette tragédie du Titanic. 0h25, eh bien, les femmes et les enfants commencent à être évacués, et les premiers canots sont mis à la mer. Et là, se poursuit, si je puis dire, la suite logique et dramatique des catastrophes ou des erreurs, c'est que ces canaux, eh bien, ne seront pas complètement, ne seront pas complètement remplis au début de passagers que l'on pouvait sauver. Et ça, c'est absolument dramatique parce que cela va avoir pour effet, bien sûr, de renforcer encore le nombre de victimes. À 2h05 du matin, le dernier canot montable, un canostat, est mis à la mer. À 2h17, le fameux orchestre, qui effectivement, selon tous les témoins, a joué jusqu'au bout, la polémique étant de se demander si l'orchestre a joué comme dernier morceau un ragtime ou plus près de toi, mon Dieu, je laisse les spécialistes trancher. 2h18, toutes les lumières s'éteignent à bord, le navire qui s'est dressé quasiment sur lui-même. Je renvoie l'image impressionnante que j'ai mise sur Facebook cet après-midi. Commence sa descente définitive, si je puis dire, dans les abîmes marins. Il va se briser en deux. Et à 2h20, tout ce qui reste coule à pic, laissant des milliers de gens toujours en vie, dans une eau à moins 2 degrés, en train de se débattre et de mourir, dans des cris absolument terribles, de mourir, bien sûr, progressivement transi et gelé. On a envoyé des fusées de détresse, faut le savoir, pendant ce naufrage. Manifestement, aucun navire ne les a vus. Pourtant, il y en a un. Alors, il y a une polémique là aussi, qui s'appelle le Californian, qui serait passé au large. Certains témoins l'auraient vu. Toute une affaire, une polémique dans les commissions d'enquête concernera ce navire, qui, en fait, dans le meilleur des cas, n'a pas vu, tout simplement, les fusées de détresse. C'est absolument dramatique. Là, encore une fois, décidément, décidément, en ce 14 et 15 avril de l'année 1912, le sort s'acharne vraiment sur le Titanic. 1520 morts, quand même. 1520 personnes n'en réchapperont pas. 693 rescapés. 76% des membres de l'équipage qui seront morts noyés. 75% des passagers de troisième classe. Pourquoi? Parce que tout simplement, et on y reviendra, la troisième classe étant située évidemment dans les tréfonds du navire, les derniers passagers à avoir été évacués, c'est les gens de la troisième classe. Donc 75% des passagers de troisième classe, les fameux migrants qui partaient chercher la fortune aux États-Unis, n'en réchapperont pas. 25% en total des femmes sont mortes, comme quoi, manifestement, la règle des femmes et des enfants d'abord a été respectée. Bien des experts, d'ailleurs, s'accordent à le dire. 82% des hommes, en revanche, périront, et 53 des 109 enfants à bord n'en réchapperont pas, eux non plus. Alors, on peut se demander, bien sûr, pourquoi, comment est-ce que d'un événement médiatique de l'époque, le navire insubmersible, avec ses compartiments étanches, qu'il faudrait vraiment que tous ou presque soient éventrés pour qu'il sombre, un navire puissant, près de 40 km à l'heure pour l'époque, 26 chaudières. Car on est bien sûr dans la marine à vapeur, bien sûr. Eh bien, pourquoi est-ce qu'une chose pareille a été possible? Alors, il faut avoir à l'esprit, être assez pragmatique, et on l'a un peu vu dans la première demi-heure de cette émission, c'est que, eh bien, à l'origine, on l'a vu, il y a quand même un empilage, d'erreurs et de problèmes. hein, qui sont à l'origine d'un empilage d'erreurs et de problèmes qui sont à l'origine de la catastrophe. Un peu, si vous voulez, comme dans les crashs aériens d'aujourd'hui, on sait, dans les investigations des crashs, vous le savez, c'est généralement l'addition de plusieurs petits problèmes techniques, de petites erreurs humaines qui font que ça finit par un crash. Là, c'est un peu la même chose. Et on va le voir tout de suite. Première erreur, évidemment, c'est de ne pas avoir tenu compte des bulletins d'alerte annonçant des icebergs au sud de la route nord. Erreur ajoutée au fait de la trop grande confiance ou une, si je puis dire, une erreur aberrante fait que les officiers de pont n'étaient pas dotés de jumelles. C'est quand même pareil, complètement incroyable. Mais tout cela forme quand même déjà la première négligence. On ne tient pas compte des icebergs, on n'a même pas de jumelles pour les repérer. De toute façon, on est certain, l'expression de l'époque, vous savez, le cadeau de le Titanic est à lui seul un grand cadeau de sauvetage. Deuxième aspect, et ça a été relevé par les ingénieurs bien après la catastrophe, c'est que les compartiments étanches étaient trop bas par rapport au niveau de flottaison, 15 mètres. Ce qui fait qu'effectivement, le déchirement de la coque étant intervenu juste en dessous, effectivement, ça n'a pas raté. L'eau s'y engouffrait avec encore plus de facilité. Toujours dans le point numéro 2, c'est que les températures négatives de la mer à ce moment-là auraient rendu l'acier cassant. Que les rivets, la fameuse rivet, ça aussi ça a été étudié, qui fixait les plaques d'acier de la coque, auraient été de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que une grève, et ça un certain nombre d'études historiques le montrent, une grève des aciéries produisant ces rivets avait eu lieu, et comme on était très pressé de lancer le Titanic, il y avait déjà eu du retard, rappelez-vous, eh bien on avait donc choisi des rivets de moins bonne qualité. Dommage, parce que là aussi, toujours dans l'aspect technique du point numéro 2, eh bien, ça va rien arranger quand le choc aura lieu avec cet iceberg. Point numéro 3, bien sûr, make the morning newspapers, comme avait dit Ismay au capitaine Smith, la trop grande vitesse du navire. Cette idée que nous avons un navire tellement extraordinaire que nous allons arriver avant la date prévue, à la grande surprise de la presse, des grands journaux de New York, bien sûr. Et bien effectivement, tout cela fait que on va accélérer au maximum. La fameuse manœuvre, toujours dans ce point numéro 3, entre en jeu pour essayer de doubler l'iceberg. Machine arrière plus virée de bord égale, eh bien effectivement, que le navire va évidemment se déchirer complètement sur sa coque. Enfin, point numéro 4, c'est qu'il n'y a pas assez de canaux. Pas assez de canaux de sauvetage, on l'a vu. La contenance maximum, alors je me suis replongé dans les chiffres parce que c'est absolument terrible, de ces canaux étaient de 1178 sur 2213 personnes en tout. Donc, cela veut dire que ces canaux ont été tout simplement sous-chargés, et puis surtout que de toute façon, il n'y en avait pas assez. Donc, décidément, les mesures de sauvetage n'ont pas été suivies, et c'est également là aussi un quatrième point qui s'ajoute aux autres et qui vont mener à la catastrophe. Alors les conséquences de ce naufrage, de ce nombre de morts tout à fait considérable pour l'époque, pas oublier que les guerres mondiales n'ont pas encore eu lieu, que on est dans les années folles, on est dans les années 1900 encore, on est dans un monde insouciant quand même relativement. Et c'est d'abord un traumatisme quasi planétaire relié par la presse de l'époque. Autre conséquence, ça va être la création de la patrouille des glaces, c'est-à-dire via des navires chargés de surveiller en permanence cette route, afin d'éviter de nouvelles catastrophes. La modernisation de la radio aussi, une veille permanente sera mise en place. Et puis aussi, plus aucun navire après celui-là ne partira avec un nombre de canaux insuffisant. Alors ce Titanic, Revenons un peu sur lui. C'est un monstre pour l'époque. Un monstre qui va sombrer par près de 4000 mètres de fond. Il fait 269 mètres de long, 28 mètres de large, 53 mètres de haut. C'est absolument considérable. Il comporte, non pas 26 comme j'étais là, mais 29 chaudières. Et sa capacité totale, c'est-à-dire passagers et membres d'équipage, est de 2471 personnes. Ce qui fait qu'en fait, il n'était pas plein en 1912 quand il est parti, puisqu'il partait avec 2213 âmes à bord, passagers et membres d'équipage. Ce qui fait donc que les 258 personnes qui ne sont pas montées à bord ont eu une bonne idée. En tout cas, cela rehausse un peu l'optimisme dans ce désastre. Le Titanic comporte 10 ponts. Pour l'époque, ce qui est tout à fait considérable, du jamais vu. Également, sa vitesse maximum, 22, 23 nœuds, 40 km à l'heure, c'est tout à fait considérable. Il fonctionne avec 800 tonnes de charbon, 4 dynamos de 400 km/h et 3 cheminées d'évacuation, plus une factice pour donc la vapeur. Alors, évidemment, il est doté de 16 compartiments étanches, avec 12 portes étanches, d'une coque à double fond, de 8 ponts pour évacuer l'eau, 400 tonnes d'eau à l'heure. On est vraiment, effectivement, dans un navire qui semble, en effet, invincible au moment où il va partir. Alors, également, revenons également sur l'affaire des canots de sauvetage. Alors, ces canots de sauvetage, s'ils avaient été pleins, auraient pu sauver en tout 1178 personnes. Sur, en fait, le fait qu'ils n'en ont sauvé que 693, ce qui fait que 485 personnes dans ce naufrage sont mortes du fait de ne pas avoir pu embarquer dans les canots qui étaient à moitié vides. Je vous donne des chiffres, les canots à plein auraient pu sauver 1178 personnes, et ce qui laisse 485 personnes qui n'ont pas pu embarquer à bord des canots. Alors, 2213 passagers en tout, tous ces morts qui s'additionnent, et tout cela crée quand même un mythe à la fois, une catastrophe planétaire, d'autant plus que le navire était un véritable rêve flottant, Ship of Dreams, comme on le cite si bien dans le film de James Cameron. Une première classe qui comportait par exemple un gymnase, un fumoir, des restaurants, des cafés, des piscines, des bains turcs, différents salons, une promenade couverte. La seconde classe elle-même se voulait très luxueuse, avec des ascenseurs, des fumoirs, bibliothèques, une promenade. Et même la troisième classe, pourtant avec tous ces fameux pauvres migrants, une troisième classe qui comportait des cabines avec 4 à 8 couchettes, des fumoirs, des petits dortoirs et des salles à manger également. On avait voulu que, effectivement, cette troisième classe, elle aussi, soit meilleure que les autres troisième classe, par exemple des navires de la Cunard. Alors aussi, aspect intéressant du Titanic, c'est un microcosme, bien sûr, c'est pour ça que ça a tellement inspiré dans la littérature ou le cinéma, c'est que c'est un navire qui comporte effectivement un échantillon représentatif de la population de l'époque, avec ses trois classes. 325 passagers de première, 285 passagers en seconde, 714 passagers en troisième classe forme, donc les 1324 passagers du navire. Alors, la première classe, je puis dire, il y a la Jet Society de l'époque. Imaginez aujourd'hui des people qui partiraient sur un avion jugé indestructible et que tout ça se terminerait mal. C'est un peu la même chose. Bruce Ismay, le président de Star Alliance, et du voyage, bien sûr, c'est le voyage inaugural. Thomas Andrews, l'architecte dont on parlait tout à l'heure. John Jacob Astor, avec sa nouvelle épouse, qui est un milliardaire américain, qui a fait fortune dans l'hôtellerie. Si vous connaissez encore aujourd'hui les hôtels Astoria, hein, sachez que c'est la chaîne qui a créé ce milliardaire. L'aide de camp du président des États-Unis, Taft, hein, c'est pas rien non plus. Benjamin Guggenheim, hein, la fameuse famille Guggenheim new-yorkaise, hein, celle qui va également donner son nom au fameux musée, hein, d'art contemporain, et ben là il y a Benjamin Guggenheim, un des manias du cuivre, qui est à bord. Hein. Qui a échappé pour l'époque? Ben John Pierpont Morgan, un des grands milliardaires américains, qui lui, eh bien, était propriétaire du navire, un grand milliardaire des trusts américains, et qui n'embarquera pas finalement sur le Titanic, et migrant bien lui en face. Enfin, il y a Madame Margaret Brown, hein, Molly Brown, la fameuse Molly Brown, dont les dates sont 1867-1932, qui est une philanthrope nord-américaine, et qui racontera, elle aussi, hein, le fameux naufrage, cette Molly Brown, qui est représentée, bien sûr, dans les différents films consacrés au Titanic. La seconde classe est plutôt composée d'ecclésiastiques, d'enseignants, d'entrepreneurs, de migrants, en fait, de classe moyenne, dont le fameux enseignant Lawrence Beasley. Lawrence Beasley, qui est, ben, c'est un enseignant qui partait donc migrer aux États-Unis et surtout qui va écrire ses souvenirs après la catastrophe, il va survivre. Et c'est lui qui va inspirer notamment le fameux film moins connu, qui est un téléfilm de 1979, SOS Titanic, où Lawrence Beasley sera joué par l'acteur américain David Warner. Ça peut être intéressant de le revoir. C'est un bon film sur le sujet. Et puis il y a également un Français. L'histoire retiendra sous le nom de Michel Davratil. Alors qui est Michel Davratil? Ben, c'est un père divorcé, pour nous dire, pour l'époque, hein, qui enlève ses deux enfants et les emmène aux États-Unis. Alors, le pauvre Michel Davratil va mourir dans le naufrage, mais ses deux enfants, non. Et ce seront les deux fameux orphelins du Titanic, hein, qui vont faire la une de la presse américaine après le naufrage, et qui, grâce, encore une fois, à ce début de globalisation de la presse, hein, eh bien, vont tout simplement être retrouvés, et leur maman, à qui ils avaient été subtilisés, qui habitent sur la Côte d'Azur, va faire tout le voyage à grand renfort de publicité pour récupérer leurs enfants. Navratil, c'est un nom célèbre, hein, il y a des bouquins qui ont été écrits après, des survivants du Titanic. Hein. Et puis bon, bah, la troisième classe, ce sont ces fameux migrants, hein, qui partent à l'aventure, souvent des populations originaires du nord de l'Italie, du sud de l'Italie, de l'Irlande aussi, hein, qui partent à l'aventure. L'équipage, 889 personnes pour faire tourner tout ça quand même. 66 officiers, matelots constituent l'équipage, 66 personnes. 325 mécanos, dont on imagine qu'une bonne partie s'occupe bien sûr des fameuses 29 chaudières. 471 personnes pour tout ce qui est de l'hôtellerie, hein, bien sûr, on a vu restaurants, etc., cafés qui parsèment les trois classes, et 27 femmes de chambre. Alors, les plus célèbres parmi eux, bah, c'est donc le capitaine Spiff, hein, bien sûr, le mécanicien Joseph Bell, hein, parce que c'est lui qui va héroïquement réussir à faire qu'il y ait de la lumière jusqu'au bout pour évacuer le navire. Hein. Il sera considéré comme un héros, cet homme. Hein. Les deux standardistes qui vont s'occuper d'envoyer les CQD, les SES, de faire envoyer les fusées de détresse, Bride et Phillips. Hein. Et puis les deux officiers, les deux bras droits du capitaine Spiff, William Murdoch, hein, donc celui qui sera à l'origine, hein, de la tragique manœuvre, hein, qui va faire couler le navire, hein, et Charles Lightoller, hein, dont je parlais tout à l'heure. Alors, voilà les données pour à peu près les dernières 10 minutes qui vont nous rester, qui concernent le Titanic. Alors pendant pendant des années. Alors deux, je le dirai tout à l'heure en conclusion, deux commissions d'enquête vont rendre des résultats assez mitigés hein, sur les responsabilités des uns et des autres dans ce naufrage. Hein. Et puis, on va récupérer une partie des corps des naufragés un peu après. Et puis, il y aura à Terre-Neuve, hein, un monument aux morts, bien sûr, des victimes. Et puis, c'est la guerre de 14-18. Et puis, c'est l'entre-deux-guerres, c'est la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, le monde. Le XXe siècle est évidemment une période très 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 troublée, tellement troublée qu'on oublie hein, un peu de savoir où est passée l'épave du Titanic. Et c'est le 1er septembre 1985, effectivement, qu'une opération océanographique liant les États-Unis et la France, l'Institut L'Ifremer, avec Jean-Louis Michel pour la France et Robert Ballard pour l'Institut océanographique Woods Hole, qui, par 3843 mètres de fond, vont retrouver brisés en deux, à 800 mètres de distance, les deux morceaux du Titanic. Rapidement, la décision va être, après avoir bien sûr photographié, relevé, récupéré évidemment un certain nombre d'objets hein, qui seront après emmenés à des expositions, de faire du site une sépulture qui sera placée sous la protection de l'UNESCO hein, et d'en faire désormais un lieu de mémorial hein, du naufrage. Bien sûr, parce qu'on pense hein, évidemment aux centaines et aux centaines de personnes hein, dont l'épave est évidemment le tombeau. En 1996, on aura confirmation justement des fameuses petites entailles hein, qui ont déchiré pratiquement tous les compartiments du Titanic. Alors, petite anecdote avant de nous diriger vers la fin. Bon, je citerai quelques ouvrages qui concernent la question. Il y en a un très intéressant parce que un auteur spécialiste de ces questions-là, Bertrand Méheux, ça s'écrit Meheust, dont on trouve très facilement d'ailleurs les conférences là-dessus sur Internet, a écrit en 2006, j'ai lu une histoire paranormale du Titanic. Alors, évidemment, il ne s'agit pas là de s'intéresser, de remettre en question quoi que ce soit, bien sûr, mais plutôt de voir que il y a eu des prémonitions, en tout cas chez certaines personnes, de cet naufrage. Notamment, et c'est là-dessus que s'est intéressé surtout Bertrand Méheux, le sujet de William Stead. William Stead, c'est un passager de première classe du Titanic, c'est un écrivain connu à l'époque, un journaliste, un adepte du spiritisme aussi, et qui, 20 ans auparavant, avait écrit un livre qui racontait un naufrage similaire. Parallèlement, et je vous invite d'ailleurs à lire le livre de Bertrand Méheux, bien sûr, hein, qui vous donnera plus de détails, ce fameux William Stead, quelques mois avant d'embarquer à bord du Titanic, se voit prédire par un voyant qu'il disparaîtra dans le naufrage au milieu de dans un naufrage au milieu de l'Atlantique. Ce que William Stead, comment dire, refuse de croire, puisque lui-même devait, en avril 1912, prononcer une conférence hein, à Moscou hein, ou à Saint-Pétersbourg, je crois, sur des thématiques de paix, et donc n'avait pas du tout l'intention de partir. Or, il se trouve que quelques mois avant, cette conférence est annulée et que le président des États-Unis de l'époque, le président Taft, justement, invite William Stead, qui est un auteur connu de l'époque, à venir prononcer une conférence sur des thèmes de paix, mais aux États-Unis. Donc, il sera passager du Titanic. C'est un fait assez troublant. Il y en a plein comme ça dans le livre de Bertrand Méheux que je vous recommande de lire, qu'on soit convaincu ou non que c'est vrai, c'est assez intéressant. Voilà, ensuite le Titanic dans les médias, bon, beaucoup de livres, hein, donc bon, celui-là que je, sur lequel je souhaitais insister. Les films les plus célèbres, donc SOS Titanic en 79, le fameux film Titanic de Cameron en 97, des documentaires hein, qui ont été faits par Cameron, notamment en 2003, une série télévision Titanic de sang et d'acier en 12 épisodes en 2012. Quelques ouvrages, les souvenirs de cette fameuse madame Navratil dont je parlais tout à l'heure, Les enfants du Titanic, paru au livre de poche en 98. Le bouquin assez connu de Patrick Besson, Le Titanic, Mille et une nuits, donc paru en 2003 aux éditions donc Mille et une nuits. Didier Decoin, auteur très célèbre en France, La femme de chambre du Titanic, hein, bien sûr. Des bandes dessinées hein, seront évidemment également produites. Un jeu vidéo aussi, hein. Titanic, une aventure hors du temps, hein, qui est représentée, je me souviens, j'ai eu ce jeu vidéo pour ma part, et donc je recommande franchement, enfin si jamais vous arrivez à le retrouver, c'était des jeux vidéo sur disque, Titanic, une aventure hors du temps, c'est vrai que le navire était admirablement reproduit. Et puis, bon, on se dirige maintenant vers la conclusion et les différentes théories de mystère, plus ou moins fantaisistes, qui courent sur le navire. Alors d'abord, une passagère aurait senti une odeur de mort en entrant dans sa cabine. Première anecdote retracée à l'époque. Il y a aussi la théorie que le fameux milliardaire Jacob Astor, dont j'ai parlé tout à l'heure, revenait d'Égypte et aurait ramené une momie. Une momie, en quelque sorte, aurait jeté sa malédiction sur le navire, très 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 furieuse de ne pas avoir, d'avoir été arraché à son tombeau. Voilà encore une autre histoire. L'affaire du Californian, donc qui n'a pas vu, qui aurait vu ou pas vu les fusées de détresse, chose qui sera démentie par les commissions d'enquête. Le capitaine Smith, sur lequel aussi il y a des mystères, parce qu'il y a plusieurs théories, soit il a sombré avec le navire, soit il s'est suicidé, soit il sauve un bébé qu'il va mettre dans un canot de sauvetage avant de mourir en disant « be British », ou alors la théorie comme quoi le capitaine Smith, un peu comme Ismay, le président de la White Star Line, aurait survécu et se serait glissé dans un canot de sauvetage, il serait mort en 1915, on l'aurait appelé Smith le silencieux. Bon, tout ça est un peu fantaisiste, il est très probable que ce capitaine a coulé avec son navire. Et puis, il y a une sorte de théorie du complot qu'il faut mentionner quand même, qui est intéressante, qui est de dire que le Titanic n'a jamais coulé. Alors là, évidemment, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Ah oui, c'est-à-dire que le Titanic n'aurait pas coulé dans la mesure où, pour des raisons d'économie de compagnie d'assurance, la White Star Line, et donc l'affreux Ismay, qui, entre guillemets, va, après avoir fait accélérer le navire, va se glisser dans un canot de sauvetage, et lui, c'est sûr, et ensuite partir avec les rescapés, aurait inversé tout simplement les polices d'assurance des deux navires, c'est-à-dire de l'Olympique et du Titanic. Ce qui fait qu'en fait, ce serait l'Olympique sous le feu du Titanic qui aurait coulé, alors que le Titanic lui-même aurait terminé sa carrière en 1935 sous le nom de l'Olympique. Bon, je vous laisse apprécier la réalité ou non de ce genre de théorie. Et puis, pour finir, trois points, rapidement. Une petite pensée pour la dernière survivante du Titanic, qui était un bébé à bord, hein, Milva Dean, hein, qui est morte à près de 100 ans en 1999. Hein, c'est le nom de la dernière personne, qui est la dernière passager survivante qui est morte donc à la fin du XXe siècle. L'affaire, des corps, des noyés. On en récupérera, il faut le savoir, 337 seulement, sur les 1520 victimes, hein, ce qui veut dire que dans cette sépulture marine qui est l'épave du Titanic, il y a 1183 personnes hein, dont on ne retrouvera jamais les corps. Hein. 1520 morts, c'est quand même un gros traumatisme hein, pour l'époque. Hein, c'est assez énorme. Troisième point, les deux commissions d'enquête qui vont être chargées d'établir les responsabilités. Alors la première, qui est une commission qui siégera aux États-Unis, va totalement blanchir Bruce Ismay. Ismay, donc président de la Red Star Line, qui va choisir de survivre, hein, va donc évidemment, vous imaginez l'image de marque déplorable que jusqu'à la fin de ses jours dans les années 30 le poursuivra. La responsabilité d'Ismay n'est pas enfin en tout cas il est désengagé de sa responsabilité par cette première commission d'enquête. Une autre, la commission Mercer, commission d'enquête britannique celle-ci, conclura définitivement que les causes du naufrage sont dues à trois facteurs. Le premier, la vitesse. Le deuxième, eh bien, le manque, évidemment, de capacité de détection de l'iceberg, hein, le problème de la veille. Et puis, troisième point, la mauvaise organisation de l'évacuation des passagers. Voilà, vous vous souvenez que j'ai retenu, moi, dans la liste que je vous ai faite, un peu plus de facteurs que cela. Mais voilà qui referme, hein, ce qui referme, mes amis, cette histoire du Titanic, une histoire qui est à la fois une première tragédie hein, moderne, hein, ça c'est absolument sûr, une tragédie globale, hein, mais plus de 1500 morts. Hein. Et puis aussi un grand mythe et sa redécouverte. Moi, je me souviens, j'étais jeune, mais en 1985, quand on nous a annoncé qu'on avait retrouvé l'épave du Titanic, c'était un scoop pour l'époque, tellement ce navire était devenu mythique. Et mythique aussi parce que c'est mythique et tragique, parce que c'est en ce mois d'avril 1912 un peu le naufrage de la belle époque, le naufrage des années folles. La fin d'un monde, hein, c'est absolument sûr. La fin de ce qu'aurait pu être un 20e siècle à la technologie conquérante, s'il n'avait pas ce 20e siècle été entaché de deux guerres mondiales et de tous les fanatismes politiques et autres qui ont fait de ce siècle un siècle, quand même le 20e siècle, particulièrement désenchanté. C'était Histoire du soir avec Olivier, sixième épisode, nous sommes le 31 mars 2016. Fin avril, pas d'émission parce que je serai en congé assez éloigné. Fin mai, nous aurons une émission en différé que je vous prépare, qui sera une surprise. Et je pense que fin juin, nous ferons une émission sur le mystère et les réalités du triangle des Bermudes. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur et à bientôt.